Et bonjour à tous et on se retrouve pour un nouvel épisode de Ma Préférence. Et oui, je suis de retour. Bonjour Vanessa.
Bonjour Tiffen.
Comment ça va aujourd'hui?
Ah bah super, sauf qu'on n'est que toutes les deux dans le studio.
Et c'est vrai, c'est vrai. Chloé n'est pas là.
Elle a pris ta place en Italie.
Et oui, on a échangé un petit peu, on a échangé un peu les rôles. Et Chélie est en vacances.
En Bretagne.
En Bretagne,
tout à fait.
C'est ça.
Les pieds dans l'eau. Hein.
Exactement.
La chanceuse.
On fait tourner un petit peu les vacances, les voyages. C'est très très chouette.
Je peux partir moi aussi.
Ah bah, avec qui je vais faire l'émission moi si tu pars, Vanessa? Enfin, déjà que c'est moi qui fais la technique. Allez, bah écoute. Tu sais quoi, je te donne le droit de partir en vacances si tu nous fais ta rubrique.
Ah mais c'est du chantage.
Bah oui.
Mais écoute, c'est avec grand plaisir que je vais faire ma rubrique cinéma. Parce que on a la chance d'avoir un Cannes à Toulouse où on voit les films du Festival de Cannes sans aller là-bas.
Ah ça c'est pratique.
Franchement, on a ça à deux pas. 12 films qui ont été projetés. On a pu débattre dessus et tout. Il y a eu notamment des films qui ont été récompensés et qu'on a pu voir le 26, 27 et 28 mai à Toulouse. Donc, que du bonheur. Alors, je vais commencer par les films qui ont été récompensés. Il y a Les Herbes Sèches, dont l'actrice Merve Dizdar a obtenu le prix d'interprétation féminine, quand même. Un sacré film parce qu'il dure quand même 3 heures.
Ah oui.
Donc
effectivement oui.
Voilà. Alors moi je l'ai pas encore vu celui-ci.
D'accord.
Mais c'est vrai que bah oui ça tombait le samedi et voilà.
Oui c'est un peu plus compliqué le samedi.
C'était un peu plus compliqué. Après nous avons le prix du jury avec Les Feuilles Mortes, un très très beau film et il est passé dimanche 28 mai et tous les gens étaient d'accord et à la fin du film. On a applaudi dans la salle. Donc, c'est une belle reconnaissance, je trouve.
C'est
les gens, voilà.
Tu étais dans une salle, moi, pendant ce temps, j'étais dans le bus.
Voilà, c'est ça. Après, on a le prix d'interprétation masculine.
Ah.
C'est Koji Yakusho. Et avec, dans le film Perfect Day. Ce qui est hallucinant dans ce film, qu'on a vu dimanche 28 mai aussi. C'est qu'il ne parle quasiment pas.
D'accord, il a réussi à avoir le premier prix d'interprétation.
Ce film est tellement d'une poésie, d'une magie, les images sont magnifiques, et lui, il emporte tout, avec des regards, avec son corps, le simple fait d'écouter, c'est de regarder la nature. Tu se balade et hop, il prend une photo, il a ce regard-là, et toujours le sourire. Quand il se lève le matin, il est bien, il est heureux d'aller travailler, même pour aller nettoyer les toilettes publiques, ce qui est un sacré sacerdoce.
Ah, c'est un sale... c'est un peu une corvée.
Ah bah, un travail difficile.
Un travail très ingrat et pourtant très important. Ouais.
Et puis les gens ne le respectent pas à la hauteur, puisque dès qu'ils ont envie d'aller aux toilettes, te vire de là, laisse-moi aller aux toilettes. Quoi. Alors il y en a, ils sont un peu plus respectueux, d'autres, ils rentrent et ils ne le laissent pas, quoi. Et j'ai découvert des toilettes assez hallucinantes. Je ne sais pas si tu connais ça. Alors, moi, je n'ai pas été les voir là-bas, mais des toilettes occultantes. En fait, tu appuies sur un bouton.
Ah oui, et la vitre, ça existe au Japon.
Au début, c'est transparent.
Donc,
tu vois tout. Tu te dis, mais attends, ils ne vont pas aller. Et
c'est
pouf
ça. Et
du coup, ça s'occulte et tu fais, mais on voit absolument
rien. Et oui, ça, c'est
génial,
au Japon,
ça.
Il me semble qu'il y a des toilettes comme ça. Ça, c'est super pratique.
C'est assez impressionnant.
Oui, c'est très satisfaisant à voir.
C'est assez fou. Alors, bien sûr, voilà, on a eu des films qui ont été primés et on a eu la chance aussi de voir La Palme d'Or, Anatomie d'une chute de Justine Triet, qui était au Cannes à Toulouse. Donc, que du bonheur. Et franchement, ce film, il est magnifique. Il mérite amplement la Palme d'Or, que ce soit la réalisation, le scénario, la mise en scène, tout. Et particulièrement, je peux saluer l'interprétation de Sandra Hüller, qui joue la femme qui est accusée du meurtre de son mari. Ce qui est dommage à Cannes, au festival, c'est qu'un seul film peut recevoir un prix. on peut pas y avoir de doublons, donc voilà, ça laisse la possibilité à d'autres films, donc ce qui est bien aussi. Mais c'est vrai que là, vu la performance qu'elle a fait, c'était assez hallucinant. Après, on a eu d'autres films, hein. On a eu Club Zero de Jessica Hausner, où moi j'ai été très en colère sur les parents, parce que en fait c'est un film, comment t'expliquer, c'est un film, ils sont en scolaire, ils sont dans une école privée, et là il y a une prof qui arrive et qui leur explique comment elle va leur apprendre l'alimentation consciente.
D'accord.
Voilà. Donc, au début, c'est manger moins. C'est quand tu manges par petites bouchées, tu prends des petits bouts et tu mâches, tu savoures. Et du coup, t'en manges beaucoup moins. Et elle va les endoctriner, ce qui est assez fou. Et il y a une scène horrible. Alors, je dis juste ça pour ceux, quand le film sortira, c'est ne mangez pas avant.
D'accord,
mangez pas avant, parce que sinon vous risquez de quitter la salle. Parce qu'il y a une scène très forte et où t'as le cœur qui est là, tu fais non, elle va pas le faire. Et si. Donc c'est non. Et les interprétations sont vraiment très bien. Les jeunes sont assez impressionnants. Donc un très beau film qui n'a pas été primé, mais je pense qu'il aurait pu. Voilà. Il y a Bonnard, Pierre et Marthe aussi de Martin Prévost, où il y avait Vincent Macagne et Cécile de France. En duo avec ce peintre Bonnard, ses histoires, Pierre et Marthe, le couple, et c'est d'une poésie, c'est d'une magie, c'est une course effrénée, je vais dire ça, une course effrénée poétique d'amour, mais d'amour avec les côtés, les beaux côtés et les mauvais. Il y a aussi les filles d'Olpha, de Kauter Bentania, qu'on a pu voir. Alors, un documentaire fiction. C'est assez fort parce que ça parle de l'endoctrinement, cette fois-ci, mais musulmane. Par rapport au terrorisme, par rapport à les talibans, tout ça.
Ah oui, ça avait beaucoup fait parler.
Et deux filles qui disparaissent, qui sont plus dans la famille. En fait, elles vont être remplacées pour faire ce documentaire. Et du coup, c'est docu-fiction parce que celles qui les remplacent, c'est des comédiennes. Donc, c'est très, très bien joué. Il y a du vrai, il y a de l'intensité. On voit, on entend aussi bien le témoignage de la mère des deux sœurs qui restent que les scènes qui sont faites pour le film, jouées par les acteurs et tout. Et par la famille aussi, puisque la mère est interprétée par une autre actrice, et les hommes aussi qu'elle a rencontrés, voilà. Mais elle est toujours là, et les deux autres filles jouent par contre dans le film, les vraies filles. Donc je trouve que c'est un savant mélange, et je trouve ça hyper intéressant.
C'est un peu un numéro d'équilibriste, hein, ce sujet-là.
C'est ça. Après, on a le film Salem de Jean-Bernard Merlin, qui était dans la compétition Un certain regard. Les autres d'avant, c'était la compétition officielle. Dans la compétition officielle aussi, on avait L'enlèvement, le dernier film de Marco Bellocchio. Et Marco Bellocchio, eh ben moi, mon coup de cœur, c'est la série Esterno Notte, dont je vous ai parlé. Et franchement, j'avais très très envie de voir ce film parce qu'il m'en avait parlé en entrevue. Il y avait eu la conférence de presse sur Esterno Notte et j'avais pu discuter avec lui. Et il m'avait parlé de ce film et je m'étais dit non, il faut que j'y aille. Et du coup, le dimanche 28 mai, j'ai pu voir le film avec d'autres personnes. Et c'est vrai que pendant ces 3 jours, on est dans une bulle. On passe de film en film, on discute, on partage, on rencontre des gens qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai fait les retours, bien sûr, des films que vous aurez quand le film sortira en salle. Il y en a un qui arrive prochainement, fin du mois, je ne dirai pas tout. Et au cours de l'année, quand les films sortiront, on vous fera partager les avis des spectateurs qui étaient au Cannes à Toulouse.
C'est super ça. Est-ce que tu veux embrayer sur ta chronique série ou est-ce que tu as envie de nous faire écouter une petite pause musicale avant ?
Moi je pense que vous devez prendre vos esprits et on a créé une nouvelle émission qui s'appelle Flashback. Et je vous embête. Alors, on a fait, vous avez entendu Sarah Douglas il y a 2 semaines. Là, il y a d'autres émissions qu'on a enregistrées, croyez-moi. Il y en a quelques-unes et le générique de l'émission, c'est AA, Take On Me. Et à chaque fois, ça me crève le cœur de le couper.
Pareil.
Pas qu'à moi, parce que Tiffen et Clément,
oui.
Le stagiaire qui était avec nous, pareil, lui, il est mince, c'est embêtant.
Ah oui, ça.
Donc, du coup, j'ai décidé de vous le passer.
Ça fait du bien.
Ah, carrément, je suis d'accord.
L'un des chanteurs monte tellement haut, c'est impressionnant.
C'est vrai. Et puis, ça rappelle plein de souvenirs.
C'est vrai, c'est vrai.
Le clip aussi, c'est oui. Magnifique, quoi. Super bien fait. Enfin, voilà. Allez, je vous emmène dans les séries
Allez.
Maintenant. Je vous ai mis de côté une petite série coup de cœur qui s'appelle Une lueur d'espoir et qui est sur Disney+. C'est vraiment, vraiment quelque chose, une découverte totale. Mais de quoi ça parle ? La remarquable histoire d'une secrétaire d'une vingtaine d'années, Miep Gis, qui n'hésite pas un instant à aider son patron Otto Frank quand il lui demande de les cacher, lui et sa famille, durant la Seconde Guerre mondiale. Pendant 2 ans, Miep, son mari Jan vont veiller sur les 8 âmes qui se dissimulent dans l'annexe secrète de l'entreprise d'Otto Frank. C'est Miep qui trouvera le journal d'Anne et le conservera en lieu sûr pour qu'Otto et elle puissent plus tard le partager avec le monde entier. Et oui, vu ta réaction,
et oui,
Tiffaine.
J'avais du mal à un peu de. Ouais, il me semblait que ça me disait quelque chose. Et d'accord, j'ai fini par comprendre.
Tu as compris.
Oui, Anne, ouais.
C'est la personne qui a caché la famille d'Anne Frank et qui a été à côté d'eux, qui s'est occupée d'eux, dont des personnes aussi qui ont veillé. C'est hallucinant. Cette série, elle est magnifique et elle nous montre un pan d'histoire qu'on ne connaissait pas.
Qu'on ne connaissait pas.
Des personnes de l'ombre qu'on n'avait jamais vues, qui n'avaient pas été mis en avant. Et là, c'est le cas. Et je trouve que c'est un très, très bel hommage à ces personnes qui ont risqué leur vie pour sauver des personnes qui auraient été envoyées au camp de la mort. Donc, franchement, et puis les interprétations sont magiques. Moi, j'ai découvert des acteurs et des actrices. Mel Powell, qui joue Mip, elle est incroyable, quoi. Elle est d'une justesse, elle est d'une émotion, elle nous transporte rien qu'avec son regard, soit apeuré, soit joyeux, parce que dès qu'elle voit les Allemands, dès qu'il y a des choses qui se passent, voilà, il y a quand même ce risque. À chaque fois qu'il y a une personne qui vient là où ils sont cachés, ils peuvent être dénoncés, il peut y avoir plein de choses. Alors il y a des gens qui lui viennent en aide ou qui commence à comprendre les choses. Et du coup, il va y avoir une très, très belle solidarité, même dans l'ombre, mais il va y avoir une très, très belle solidarité. Et après, bien sûr, on a Billy Boulet qui joue Anne Frank. Et là aussi, c'est une sacrée performance. On a Liv Schreiber qui joue Otto Frank, le papa. Et c'est tellement dur pour lui, il fait venir sa famille parce qu'ils sont en danger en Allemagne. Donc il les fait venir, il dit voilà, là on sera protégés. Normalement, il y a le gouvernement qui est contre. Et tout, pouf, le gouvernement s'évade et c'est les Allemands qui prennent. Et du coup, tout change. Et là, les certitudes bougent. Et il a qu'une envie, c'est sauver sa famille. Mais c'est trop tard pour fuir. Donc c'est l'annexe. C'est ce grenier, c'est des endroits, ne pas faire de bruit la journée, ne rien dire, ne rien faire, chuchoter, ne pas bouger le moins possible.
Je crois qu'ils sont restés bien un ou deux ans, non ?
Plus que ça, ouais. Non, ils sont.
J'avais lu à l'époque le journal d'Anne Frank, justement.
C'est assez impressionnant, c'est fou. Enfin, après, il y a Joe Cole qui joue le mari de Mip. Mmh. Jeanne Guise, qui est aussi fort, parce que lui, de son côté, il a fait des choses. Il était employé social, donc c'est là ceux qui prennent conscience, qui donnent les tickets repas, tout ça. Donc il a pu mettre de côté pour pouvoir avoir des tickets de rationnement, tout ça. Et puis, à un moment donné, quand il y a des choses qui lui ont pas plu, il a fait des choses qu'il ne fallait pas, il s'est mis en danger. Et les personnes qui étaient au-dessus de lui ont vu le danger qu'il prenait. En fait, ils se sont dit, il est comme nous, il est de notre camp. Donc, ils l'ont testé et ils ont vu que oui, en effet, il était résistant. Et il va rentrer complètement dans la résistance. Il y a une scène très forte parce qu'à la fin, on les voit tous revenir. Malheureusement, il y en a très, très peu qui reviennent. Et il y a un moment, il y a une famille qui est vraiment, on va dire, déchirée. La mère qui veut pas... Elle doit se cacher dans une église et son enfant a été confié à une dame. Et il a changé de prénom, il a changé d'identité. Et elle peut pas le voir. Elle peut juste le voir à travers une grille, enfin voilà, de loin ou même en hauteur. Et là, elle commence à partir. Et du coup, lui, il la retient. Il lui dit, mais là, il est sauvé, et vous le retrouverez. Et c'est ce qu'on voit à la fin, quoi. C'est tellement beau parce que ces personnes-là, ils ont donné tellement d'eux, et à un moment donné, ils voient ce retour des choses. Parce que à un moment, ils se disent, mais c'est pas possible, personne n'est revenu, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et quand ils voient ce couple retrouver son enfant, c'est magique, quoi.
Une lueur d'espoir.
Oui, c'est une lueur d'espoir. C'est tout à fait ça, et c'est une très belle série de 8 épisodes. C'est une mini-série sur Disney+, et je vous la conseille fortement.
Et du coup, c'est français, tu sais ou...
Non, c'est pas français, c'est américain. Ça vient des États-Unis et c'est marqué que c'est un drame historique biopic, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, sur l'écran de la série, au début, c'est marqué « Tous les personnages ne sont pas vrais, il y en a qui ont été inventés pour la trame, tout ça, enfin pour pouvoir faire une série. Mais de ce que j'ai lu, il y en a énormément qui sont réels.
Oui, et j'imagine franchement, qu'il peut y avoir un travail de documentation.
Ouais, c'est super bien fait. C'est vraiment très fort. Et ça s'appuie aussi sur le journal d'Anne Frank, puisque Anne Frank en parlait. Donc, on en a entendu parler, mais on n'avait pas, on l'avait pas mis en lumière. Et je trouve que de mettre en lumière ces sauveurs, c'est ça, qui ont pris tous les risques pour pouvoir sauver ces gens, pour pouvoir sauver leur ami, leur là c'était son patron, sa famille et son patron, c'est fou quoi. Tandis que d'autres ont profité pour les dénoncer et s'accaparer les choses, elle a donné de sa vie, de son temps et surtout risqué la sienne.
C'est ce genre d'épisode de l'histoire, c'est vrai que ça montre un petit peu les gens tels qu'ils sont réellement en fait. Au fond d'eux, et là, on a vu le pire de l'être humain comme on a vu le meilleur, de toute façon.
Oui, et puis il y a la solidarité. On le voit à un moment, il se passe un truc avec un Allemand, et il y en a qui ferment les yeux, il y en a d'autres, ils font du zèle, tout comme ceux qui faisaient partie du gouvernement du pays. Hop. Enfin, voilà, c'est dommage, parce que tu te dis, s'il y en a, ils avaient eu moins peur ou d'autres qui n'auraient pas été endoctrinés et tout, avec DC, on pourrait refaire le monde, je sais. Mais c'est vrai que quand tu vois, à un moment donné, il y a une fête, elle est invitée, et elle s'aperçoit que tous ceux qui sont dans cette fête sont partisans des Allemands, le gros coup de massue sur la tête, quoi.
De toute façon, désobéir aux et puis Allemands, même la résistance.
Même, on lui offre un bijou. On lui offre un bijou, elle est toute contente et tout. Et en fait, c'est un bijou qui appartient à une juive.
Et
c'est un papillon qui forme, ce qui est très beau. Hein. C'est un papillon, quand tu le déplies, parce que c'est caché, c'est la croix. C'est l'étoile. L'étoile de David. C'est fort. Je trouve ça vraiment très fort. Ouais.
C'est une période compliquée. On pourrait en parler
pendant des heures et des heures.
On va avoir Pascal Sabastien.
Ça y est, elle est revenue là.
Et ben oui, elle est là. Je vais l'appeler tout de suite. Bonjour Pascal.
Bonjour Vanessa. Bonjour Tiffaine.
Bonjour. C'est super de te retrouver.
Et bien pour moi aussi, ça fait plaisir. Et j'ai encore de belles choses à vous raconter, je pense.
On attend ça avec impatience.
Et j'ai pensé à toi, Pascal, parce que j'ai vu passer des auteurs français en Italie, dans la bibliothèque. Donc j'ai pensé un petit peu à toi.
D'accord, ok. Mais moi, je vais vous parler de deux auteurs françaises. La première, elle est toulousaine en plus. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle s'appelle Maïlys Adémar.
Ah, ça me dit quelque chose.
Elle avait écrit il y a 2 ans un roman qui s'appelait Béni soit Sixtine. On en avait pas mal parlé. Moi, je pense que j'avais fait une chronique là-dessus aussi.
Exact.
Il me semble, me souvenir. Et là, elle revient avec un deuxième roman qui s'appelle La Grande Ours, qui est édité chez Stock. Alors, La Grande Ours, c'est au sens propre, hein. C'est un ours des Pyrénées, en fait. Mmh. C'est un peu à double sens, le titre. Et ça raconte l'histoire de Zita, donc elle a un prénom un peu bizarre, après il est expliqué dans le livre pourquoi elle s'appelle comme ça. Zita, elle bouille, elle a 26 ans, et elle revient au pays. Et son pays, c'est l'Ariège, c'est au 16, hein, dans une vallée de l'Ariège qui est à la frontière espagnole. Et Zita, elle aurait pu devenir éleveur de moutons comme ses parents, mais elle travaillait très bien à l'école, alors elle a fait des études, elle est devenue ingénieure agronome. Et elle a parcouru le monde, elle est allée pas mal d'années, deux ans au Vietnam, puis après au Costa Rica, et puis elle revient à l'automne 2011, et elle débarque comme ça, dans un bistrot, où ils sont en train de fêter la châtaigne. Et là, par le plus grand des hasards, se trouve Pierrick. Pierrick, lui, il est ingénieur aéronautique à Toulouse, donc aussi, c'est un pur citadin. Il est séparé de sa compagne et il est papa d'une petite Inès qui a 5 ans. Dans ce bistrot, leurs regards se croisent et ils tombent immédiatement fous amoureux l'un de l'autre. Ils décident très vite de s'installer ensemble, donc à Toulouse. Zita, elle prend un poste de prof au lycée agricole. Mais bientôt, tout devient très compliqué. D'abord avec Inès, la petite Inès, et surtout avec la maman d'Inès, Émilie, qui est très envahissante et qui en plus de ça est une écolo patentée, donc elle a ouvert une boutique solidaire de produits bio, et elle est vraiment adepte de l'agribashing, quoi. Les agriculteurs, c'est tous des pollueurs, et ça va pas du tout, mais du tout accrocher avec Lita. En plus de ça, il se trouve que l'été suivant, il y a un problème avec les moutons de la famille, c'est-à-dire qu'ils dérochent, ils étaient dans une estive dans l'Ariège, et affolés par un ours, ils sont tous tombés dans le ravin, ou presque tous, enfin, il y a de gros gros dégâts. Et quelques temps après, cet ours, il est tué à coup de fusil. Donc, ça ne fait qu'envenimer la situation dans la famille, parce que forcément, tout le monde retombe sur cette pauvre Zita, comme si c'était elle qui avait tué l'ours. Tout devient assez infernal, ça n'arrête pas de se compliquer. Alors elle a des questions qui se posent, quoi. A-t-elle fait le bon choix? Est-ce qu'elle est vraiment à sa place en ville? Est-ce que c'est un milieu qui est vraiment très loin du sien? Enfin bref, bon, tout ça, vous le saurez en lisant le roman. Mais si j'ai des choses à dire sur ce roman, c'est parce que je l'ai trouvé très pertinent dans la façon qu'il a de mettre en parallèle l'introduction de Zita dans cette famille et auprès de cette petite fille qui est quand même assez perturbée par la séparation de ses parents, et l'introduction de l'ours dans les Pyrénées qui pose de gros problèmes. Et elle met ça vraiment en parallèle, et dans les deux cas, chaque partie lutte avec ses armes, son bon droit, ses arguments, mais il est très difficile de dire qui a raison. Vraiment, ce n'est pas manichéen du tout. Le manichéen n'est pas de mise dans ces deux sujets, parce que rien n'est simple. Et c'est ce qui ressort bien de ce roman. Rien n'est simple. Il faut trouver des compromis, des solutions. Il faut discuter sans passion. Et tout ça, c'est quasiment impossible. Et souvent, à la fin, c'est la radicalité qui s'impose, quoi. Donc, c'est vraiment un roman de notre époque, parce que c'est ce genre de sujet. Être pour ou être contre, c'est vraiment dans tous les plans qu'on le trouve aujourd'hui. Tout est blanc, tout est noir. Ouais. Le gris, la nuance, ça existe très peu. Et donc, voilà, est-ce que Zita va sortir de ce problème-là? Est-ce qu'elle va arriver à trouver une solution? Il faut le lire en lisant ce roman, qui est vraiment un excellent roman. Parce qu'il offre une très belle histoire, déjà. Et puis, il nous fait réfléchir sur des sujets graves. La place des agriculteurs, de l'agriculture en général, l'histoire de l'ours évidemment aussi, mais pas que ça, l'histoire des enfants bourlingués de droite et de gauche qui ne savent plus où ils habitent, enfin plein de sujets actuels, un livre vraiment, vraiment actuel. Et il y a un suspense aussi, parce que vraiment on se demande comment ils vont arriver à s'en sortir. Est-ce que leur amour, qui est vraiment sincère, va arriver à les sauver de tout ça? Et donc on ne lâche vraiment le livre qu'à la dernière page. Donc je vous le conseille vraiment, il est très agréable à lire, très intéressant, très pertinent. Ça s'appelle La Grande Ours et c'est de Maïlys Adémar chez Stock. Le deuxième roman dont je voulais vous parler, c'est un livre de Vanessa Bamberger. Donc Vanessa, c'est vrai que c'est un auteur que je suis depuis le début. J'aime beaucoup sa façon d'écrire et j'aime beaucoup aussi les sujets qu'elle choisit. Celui-ci s'appelle Les Brisants, comme les vagues. Et ça raconte l'histoire de Marion. Marion, elle fait du rangement chez sa mère. Elle est restauratrice de tableaux, elle, pas sa mère. Et par hasard, en faisant du rangement, elle tombe sur un acte de propriété d'un terrain en Bretagne. Or, à aucun moment, la jeune femme n'a entendu sa mère évoquer une quelconque attache familiale en Bretagne. Donc, elle ne comprend pas trop. Elle ne dit rien à sa mère. Parce que la seule chose qui la rattache à la région bretonne, c'est un drame qui est survenu 20 ans plus tôt. C'est la disparition de Léo, son frère. Il était parti en camp de vacances sur une île, l'île de Batte. Et personne ne l'a jamais revu. Il a disparu comme ça, du jour au lendemain. On a décidé qu'il était mort, mais il n'y a jamais eu de corps retrouvé. Donc Marion part avec sa meilleure amie, sans en parler à sa mère, pour tenter de comprendre pourquoi personne ne lui a jamais parlé de ce bout de terrain au bord de la Manche. Et puis ses recherches, petit à petit, vont l'amener sur l'île de Batte, la fameuse île où son frère a disparu. Et c'est une île de pêcheurs, battue par les vents, qui vit au rythme des marées. Et dans cette île, vraiment, le poids des secrets, il est très très lourd. Mais ce qu'on va se demander, c'est si on peut restaurer le passé comme on restaure les tableaux. Est-ce qu'on peut gratter le vernis posé depuis 20 ans sans faire de dégâts? Voilà, c'est là tout l'enjeu pour Marion. Parce qu'en tirant un fil, elle va dérouler toute une bobine de non-dit et surtout convoquer le fantôme de Léo, ce frère qui était adulé et complètement mystifié par sa mère. Et il était vraiment sa seule raison de vivre. Donc voilà, c'est l'histoire. C'est l'histoire d'une famille qui est dysfonctionnelle. C'est un des thèmes de favoris de Vanessa Bamberger, d'ailleurs. C'est pas la première fois qu'elle utilise ce thème dans ses romans. Et ce qu'il a de plus que les précédents, celui-là, c'est vraiment une ambiance. Il y a le côté totalement envoûtant de cette île. C'est omniprésent. Il y a un mystère. Et ce mystère, il ne cesse de grandir au fur et à mesure que les recherches de Marion s'affinent. Et les personnages sont très difficiles à cerner. Et ça ajoute vraiment un sentiment de trouble très profond. Et on ne peut s'empêcher de se demander où va conduire la curiosité de Marion, quoi. Sûrement au-delà de ce qu'elle imaginait. Mais c'est vraiment pour le plus grand bonheur du lecteur, parce que c'est un grand plaisir de lire ce livre. Voilà. Je vous le conseille aussi. Donc ça s'appelle Les Brisants, et c'est de Vanessa Bamberger, édité chez Liana Lévy.
C'est une histoire
voilà
de...
pour les romans.
C'est une histoire de secret de famille, donc si je comprends bien, plutôt.
C'est ça. C'est un... Ouais, il y a un secret, mais il y a pas que ça.
Il y a un côté thriller. Ouais.
Je peux pas vous trop
oui,
vous
forcément.
En dévoiler. Oui, il y a une histoire de secret de famille, des choses qui n'ont pas été dites, et puis il y a des choses, comment dire, mal comprises aussi dans la famille.
D'accord.
Et ça va ouvrir les yeux de Marion, quoi. Elle se souvient de son frère parce qu'elle était pas bébé quand il a disparu, mais elle s'en souvient d'une certaine façon.
Oui.
Bon, je vous en dis pas plus,
et
parce
oui.
que si je dévoile trop, ça perdra de son charme.
Non, ne dis rien.
On va arriver à en dévoiler juste assez.
Voilà, c'est deux bouquins qui sont des écritures simples, très abordables, faciles à lire. En plus, c'est pas des gros bouquins, mais ils sont vraiment très très riches aussi. C'est pour ça que je les ai retenus cette semaine.
Voilà, oui, ça a l'air d'aborder beaucoup de thématiques, ouais.
Pour les Romains, ouais, exactement, il y a beaucoup de thématiques. Et si on parle de séries, je peux toujours, pour m'autoriser?
Ah ben
bien sûr.
Je t'en prie.
Alors, j'en ai apprécié deux ces dernières semaines, et il se trouve que c'est deux séries espagnoles.
Ah.
Donc moi, j'ai une petite histoire personnelle avec l'Espagne, parce que j'ai fait des études d'espagnol, et c'est vrai que j'aime beaucoup l'espagnol et l'Espagne. Et donc, la première, elle est diffusée sur Arte. Alors, je pense que toi, Vanessa, tu la connais. Hein, c'est Dis-moi qui je suis.
Ah, mais oui.
Dime quién soy en espagnol.
Yeah.
Donc, c'est vraiment une série, alors, on ne peut plus romanesque. On suit donc une jeune femme qui est de la bourgeoisie madrienne et qui va par amour. Et contre toutes les convenances, comme dans les grands romans romantiques, contre toutes les convenances de l'époque, suivre un républicain qui s'avère être un espion qui bosse pour le compte de l'URSS. Elle va être, malgré elle, presque, je vais dire, pas tout à fait après, mais surtout au début, mêlée à la grande et tourmentée histoire des années 30, jusqu'à la chute du mur de Berlin. Et on suit les aventures d'Amalia, de l'Espagne à l'Argentine, en passant par Londres, Moscou, Berlin, Rome. Forcément, c'est une série qu'on regarde en version originale parce qu'il y a tellement de langues dans cette série que c'était impossible à doubler, je suppose. Et le rythme est très enlevé, les reconstitutions sont parfaites, les personnages sont forts. C'est une des très vraies belles fresques historiques, humanistes et terriblement romantiques. N'est-ce pas, Vanessa?
Ah oui, je suis d'accord avec toi. Et il y a des très très belles interprétations.
Ouais. C'est vrai que c'est un régal. Alors, évidemment, c'est extrêmement romanesque dans le sens où il y a peut-être des invraisemblances.
Pas du tout.
mais on n'y fait pas attention parce que c'est beau. C'est juste beau. Il faut des belles séries de temps en temps.
C'est corps et âme.
Et l'autre, c'est, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle est sur Netflix et elle s'appelle Les patients du docteur Garcia.
Non, je ne l'ai pas vu encore.
Voilà, donc ça, c'est tiré d'un grand roman, par contre, d'une une papesse de la littérature espagnole qui s'appelle Almudena Grandes, qui est décédée il y a peu de temps d'ailleurs. Et celle-ci, c'est aussi une fresque historique. Elle raconte le parcours de deux amis qui se rencontrent, car l'un, le fameux docteur Garcia, est amené à soigner l'autre pendant la guerre civile. Et l'autre, c'est un espion qui est à la solde des républicains espagnols et qui est chargé de démasquer d'éventuels traîtres à la cause pendant la guerre civile. Et après la victoire de Franco, il va essayer de restaurer la République avec l'aide des Américains sur qui il pense pouvoir compter, mais ça s'avérera malheureusement un échec. Alors cette série, bon, elle est un peu difficile à suivre si on ne connaît pas bien l'histoire de l'Espagne. Parce que les différentes factions pendant la guerre civile, enfin, c'est pas très facile à suivre. Mais elle reste d'abord d'une très grande qualité dans sa forme. L'interprétation des acteurs est extraordinaire. Et le but, et je pense, hein, c'est de montrer toute la complexité de la géopolitique, de la réelle politique, et surtout tous les ravages que peuvent provoquer une guerre fratricide comme l'a été la guerre civile espagnole. Je lui reproche juste une fin un peu trop feel good à mon goût, mais vous savez que je ne suis pas très fan du feel good, moi. Quand c'est toute la série qui est feel good, ça marche, mais là, c'est vrai que la fin, elle n'est pas très en accord avec ce qu'on voit le long des épisodes.
Ouais, il y a une trop grande rupture de ton.
Voilà, il faut prendre un peu de recul, mais c'est quand même c'est une très bonne série. C'est très, très intéressant.
C'est intéressant parce que ça permet de voir un pan de l'histoire espagnole aussi.
Oui, oui, tout à fait. Après, honnêtement, il faut faire un petit tour sur Wikipédia de temps en temps pour essayer de comprendre.
Oui, forcément.
Hein, on a le téléphone à portée de main quand on regarde une série. ou la vilaine.
Ou quand on lit certains livres aussi. Moi, ça m'arrive quand je lis certains livres d'avoir le téléphone sur moi pour aller chercher ce que sont certains mots. Parce qu'il y a des fois, je pense notamment à la saga du sorceleur, il y a beaucoup de mots, je ne savais même pas qu'ils existaient.
Ah oui, oui, mais c'est ça, c'est qu'on apprend tout
le
temps.
Et oui, c'est ça. Ah, on apprend toujours.
Ça sert à ça. Et des mots, et des histoires, et un peu de tout. Donc, lisons, et regardons quelques séries.
Bien sûr.
Allez, je vous laisse pour ce soir.
Merci beaucoup, Pascal, en tout cas, pour toutes ces recommandations. Je pense que là, on a de quoi faire.
Entre série et littérature, on a de quoi faire.
Ah bah ça.
Voilà, c'est le but. Et je vous dis à bientôt.
Ah bah à bientôt.
À bientôt.
À très bientôt, bonne soirée à toi.
Au revoir.
Au revoir. Écoute, moi sur ce, alors je sais bien que ça fait une semaine et demie que je suis revenue en France, mais que veux-tu, Vanessa, j'ai encore Rome dans le cœur. Je la vois lever les yeux.
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, secours. Hola.
Ah, je te vois lever les yeux. Hola, tu confonds pas avec l'espagnol ?
Non, non, c'était pour t'embêter en fait. Parce que moi, à la maison, j'ai des hola. Donc, c'est pour ça.
Ah.
Qui est pas ça, tu vois ?
Che passa, ils le disent en italien.
Ah, ils le disent en italien.
Ouais, il y a beaucoup de mots en fait qui sont quasiment les mêmes. écoute, moi j'avais envie de faire découvrir un artiste italien, pour le coup que j'ai découvert, je vais te raconter comment, de manière complètement hasardeuse. En fait, il s'agit de Blanco. Alors, je sais pas si tu le connais, parce qu'il a représenté l'Italie à l'Eurovision 2022. Et il a 20 ans, et son premier album Blue Celeste est triplement disque de platine en Italie. Donc il est quand même connu. Et là, en fait, pourquoi je l'ai choisi, c'est parce qu'en fait, en 2023, il a sorti son deuxième album, Innamorento, et dans le métro, j'avais des grandes affiches publicitaires. Et en fait, le visuel a attisé un peu ma curiosité. Donc, je suis allée un petit peu écouter ce qu'il faisait. Et c'est vrai que c'était... J'aime beaucoup sa façon de chanter. Alors, j'ai choisi un morceau, je sais qu'il y en a d'autres. Il y a celui qui donne le titre à son album. Il y a un featuring avec Mina, qui apparemment est une légende de la musique italienne. Donc moi, j'ai choisi une bricciolo di allegria. Alors, je pourrais pas te traduire, mais j'ai beaucoup aimé en fait sa façon de chanter, même par rapport à la musicalité. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté un peu expérimentation.
In mezzo al viale giocava a pallone sulla strada sterrata che mi ha creato. cresciuto
dove il cielo è bordo immerso nel verde, dove Dio creò distese di niente.
Se non è sincero, se l'amore è vero, muori dentro un sentimento puro. Noi non ho futuro se ti perdo. Dai la mia vita che non è infinita, un prezzo onesto, ma per fortuna che poi ci siamo trovati sotto un chiaro di luna, forse un po' stropicciati da una storia vissuta. Poco dopo eravamo stesi sopra una pietra, con i capelli in mano come una matita, scriverei una poesia. Pa, 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 pa.
Alors comme ça Vanessa, tu t'en vas.
Oui, je dois partir, mais avant que je parte, je voulais parler, on va partir un peu sur l'agenda. Il y a la quinzaine des réalisateurs alors qui a lieu au Festival de Cannes, qui est repris à l'American Cosmographe à Toulouse du mercredi 7 juin au dimanche 18 juin. Et alors normalement, il y a 19 films à la quinzaine des réalisateurs, mais ils ont pu en avoir que 17. Or, 17, c'est vraiment
c'est bien,
très,
17
très bien.
Déjà.
Et du coup, voilà, vous pouvez aller sur le site de l'American Cosmographe, vous pouvez aller même au cinéma récupérer un petit fanzine, et là, vous avez toutes les infos, vous prenez vos places, attention, parce que ça part très, 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 très rapidement, et il y a des films comme Le Procès Goldman, qui a fait beaucoup parler de lui à Cannes, il y a Désert, il y a... Un prince aussi, In Flames, Conan, Riddler of Fire, Creatura, Blackbird, Le Livre des Solutions, qui est un très très beau film que, avec Pierre Niney.
Oh, d'accord.
Et Blanche Gardin.
Ah, ça c'est intéressant,
je
ça comme
duo.
Ah,
ça
a l'air pas mal déjà.
Et bah, c'est sur un réalisateur un peu fantasque.
Eh bah,
ben
oui, bah, je me doute, oui, voilà. Pierre Niney, Blanche Gardin.
L'autre, Lorenz. Mambar Pierrette, Blash, La Grâce, Leguia, Song Sug Blue, voilà, Inside the Way Yellow Cocoon Shell, Agra et In Our Day. Et si j'en ai oublié, allez sur le site de l'American Cosmographe, vous aurez tous les renseignements, les tarifs et franchement, c'est que du bonheur d'avoir ces films.
C'est un chouette ciné, l'American Cosmographe.
Ah ouais,
c'est un ciné que j'aime beaucoup.
Et puis là, 17 films du Festival de Cannes, de la quinzaine et des réalisateurs. Ouais. Un truc de fou.
Et ben, je crois qu'il va y avoir la fête du cinéma, de toute façon, aussi très bientôt.
Oui,
il me
du 2 au 5 juillet, mais on en parlera la prochaine
fois.
Et
oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, écoute, Vanessa, sur ce, je vais te mettre à la porte du studio.
Voilà, je te laisse continuer. J'écouterai ton jeu vidéo parce que je pense qu'il y a de quoi dire.
Ah, le jeu vidéo, ce sera pour la prochaine
fois. Non, tu ne vas pas nous parler.
Peut-être. Si j'ai un petit peu de temps, je voulais parler un peu de Rome.
Ah, bah oui, de Rome.
Forcément, certaines petites astuces et visites à faire. Et peut-être, oui, parce qu'effectivement, il va y avoir des petites choses qui vont arriver dans les prochaines semaines. Et puis, il y a la sortie de Zelda Tears of the Kingdom, forcément. Qui... Est-ce que tes enfants, ils t'ont pas encore réclamé de l'acheter?
Ah, ça y est, il est à la maison.
Ah, ça y est, vous l'avez. Moi, j'attends qu'il baisse un petit peu de prix quand même.
Tu vois, tout à l'heure, j'étais à la maison, elle m'a dit « Maman, tu pars travailler ?» Oui, oui, j'y vais, là. Je te laisse la maison, pas de problème, pour qu'elle joue. Elle est dans ses examens et je trouve que voilà, ça lui permet de...
C'est un jeu qui est très contemplatif, avec une ambiance sonore qui est parfaite quand on veut travailler, se concentrer aussi.
Franchement,
de ce que j'ai vu,
elle adore. Donc, voilà.
Il est beau, de ce que j'ai vu aussi, il est magnifique.
Très, très beau.
Eh bien, très bien.
Allez,
Vanessa.
Je me sauve.
Ciao.
Arrivederci.
Eh bien voilà, me voilà de nouveau toute seule, mais ce n'est pas grave, ça ne m'empêchera pas de terminer cette émission comme il se doit. Bien sûr, je reviens avec ma chronique jeux vidéo, mais pour l'instant, j'ai encore envie de vous parler un petit peu de Rome. Parce que Rome, il y a énormément de choses à voir et à faire. C'est une ville qui est extrêmement riche, avec beaucoup d'histoires. Et évidemment, je ne peux pas être exhaustive quand je veux parler de Rome. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit best-of de ce que vous pouvez faire si vous avez envie d'aller visiter la ville aux 7 collines. Parce que des collines, il y en a. Première chose, si vous allez sur la Piazza Espagna, au centre-ville, vous avez évidemment la magnifique fontaine, et vous pourrez voir des escaliers, en fait, qui peuvent monter et paraître interminables. Et ces escaliers, si vous avez le courage de les prendre, ils vont vous mener à la Trinité des Monts. Donc, Trinité dei Monti, c'est un lieu qui est français, en fait, qui a été offert aux Français par le roi Charles VIII, si je ne m'abuse. En premier lieu, vous pouvez déjà y voir un magnifique point de vue sur Rome, notamment si vous y allez au coucher du soleil en fin de journée, c'est vraiment très très beau. Et donc, comme je vous l'ai dit, la Trinité des Monts est un lieu français, donc ça veut dire qu'il propose des visites guidées, donc du couvent, en fait, du couvent de l'Ordre des Minimes, parce que c'est là que Saint François de Paul a fondé l'Ordre des Minimes. Donc ces visites guidées, vous les avez le jeudi matin à 9h30, donc pendant qu'il fait encore un peu frais, c'est une visite qui dure environ 1h30. C'est-à-dire que vous pouvez vous balader dans le couvent tout en écoutant des anecdotes sur l'Ordre des Minimes, sur Saint François de Paul et sur Galilée. Et c'est super intéressant au niveau des anecdotes sur Galilée parce qu'il y a beaucoup d'œuvres, beaucoup de fresques qui ont été bien conservées. Et vous avez notamment la chapelle de Mater Amirabilis qui est une très très jolie histoire. Par contre, pensez à envoyer un mail pour réserver. Juste vous envoyer un petit mail sur le site aux personnes pour réserver. C'est la communauté de l'Emmanuel qui gère cet endroit. Après, il y en a peut-être qui certains qui connaissent la Piazza del Popolo. Alors la Piazza del Popolo, c'est une très très grande place, très très belle, un petit peu moins fréquentée. Et derrière l'une des fontaines, en fait, parce que vous avez deux extrémités, vous avez deux fontaines, et derrière l'une des fontaines, vous avez un tout petit peu caché un escalier, en fait, qui se cache un petit peu dans la végétation. Il faut savoir que Rome, c'est très très vert. Et si vous avez le courage de monter, autant vous dire que ça vaut largement la peine parce que vous allez arriver sur une magnifique place, en fait, avec un point de vue qui est incroyable sur la ville, notamment le Vatican. En plus, c'est une place qui n'est pas très fréquentée pour le coup parce que forcément, c'est un petit peu moins connu. Donc là, déjà, vous ne serez pas dans un bain de foule. Et donc là, vous allez voir notamment le Vatican et pareil, aller à un coucher de soleil, un début de soirée. En plus, vous pouvez même avoir parfois des artistes qui chantent, qui font des petites prestations. Et ça, c'est très, très, très chouette. C'est un magnifique lieu pour le coup. Si vous voulez continuer à avoir des points de vue sur Rome, évidemment, vous avez le Palazzo Venezia. Alors le Palazzo Venezia, c'est un immense palais. Et c'est notamment un musée sur l'histoire de la résistance italienne. Donc vous avez donc ce musée-là, en plus ce n'est pas très cher, vous avez donc ce grand musée-là, vous avez une grande terrasse panoramique qui vous permet de voir tout Rome en fait, à 360 degrés, c'est très impressionnant, ça vous permet de voir à des kilomètres à la ronde. Et vous avez aussi un café sur les toits, sur un rooftop, alors attention parce qu'il y a des goélands et des pigeons qui n'hésiteront pas à venir essayer de se servir. Mais si vous cherchez un autre endroit pour dîner, pour manger, alors dans ce cas-là vous avez un très bon restaurant qui n'est pas très loin du Castel Sant'Angelo, c'est le Osteria da Fortunata, et donc là vous avez des plats en fait de pâtes fraîches, en fait c'est des pâtes fraîches, et vous avez même des chefs Bah, vous avez une chef cuisinière en fait qui fait la pâte directement. Donc c'est vraiment des pâtes faites main et c'est très très bon. Alors il y a beaucoup de plats, comment dire, qui attisent un petit peu la curiosité. Donc pour ma part, j'ai pu déguster les alla matriciana. Donc alla matriciana, il y avait environ du vin, du parmesan, de la tomate et c'est un goût vraiment particulier. C'est que la cuisine italienne en fait est plus légère et en même temps elle a beaucoup plus de goût. Bah que la cuisine française. Et alors aussi une autre spécialité que évidemment vous pouvez tester, c'est les souplis. Les souplis, ce sont des petites croquettes panées dans lesquelles vous avez un risotto, du risotto en fait, et de la mozzarella. Et c'est super bon, c'était fait avec les restes et c'est très 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 bon. C'est une vraie spécialité pour le coup de Rome et de l'Italie. Donc ça, c'est des petites choses à tester, pas piquer des hannetons. Et enfin, bah évidemment... Bon, déjà, évidemment, je ne peux pas parler de Rome sans parler du Colisée et du Forum romain, qui est effectivement des lieux extrêmement grands. Je sais qu'avec le Colisée, vous pouvez avoir des audio-vidéo-guides, et ça, c'est presque indispensable si vous avez vraiment envie de pouvoir visualiser les lieux. Parce que avec le Forum romain, comme c'est vraiment beaucoup, beaucoup de vestiges, ça demande vraiment un effort un petit peu intellectuel pour arriver à se projeter un petit peu ce que c'était. Mais c'est très impressionnant à voir. Et donc, évidemment, bah, le Vatican, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le Vatican, c'est un des lieux les plus visités du monde. Donc, c'est un lieu où il y a énormément de monde. Je ne sais pas si je suis la seule dans ce cas-là, mais c'est vrai que les bains de foule, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Du coup, je suis passée par des petites... réservation. Et donc j'ai pu faire, donc si jamais vous voulez, vous êtes comme moi et que vous n'avez pas forcément envie d'être dans un bain de foule et que vous avez un petit peu envie, bah voilà, d'avoir un guide, d'avoir quelqu'un qui vous explique un petit peu l'histoire du lieu dans lequel vous êtes. Donc pour ma part, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bah, dans ce cas-là, vous avez des visites guidées du Vatican qui font une heure avant l'ouverture de la billetterie. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il faut y être pour 8 heures. Donc il faut réserver à l'avance. C'est un petit budget. Là, il faut compter environ 40 euros, de 35 à 40 euros. Donc en français, et justement, donc c'est une heure avant l'ouverture de la billetterie, donc c'est une visite guidée qui dure 2 heures. Vous faites même pas tout le Vatican, vous faites les musées du Vatican, le palais un petit peu, et la chapelle Sixtine. Alors par contre, prévoyez des baskets, parce que c'est 2 heures non-stop. Mais effectivement, vous voyez des magnifiques choses. Vous voyez la galerie des cartes, notamment, vous pouvez voir tous les trésors en fait du Vatican, toutes les reliques, et c'est un très beau lieu. Vous avez le château Bella Vista, qui vous donne une très très belle vue sur Rome. Voilà, pour continuer ensuite dans les villas, vous avez aussi la Villa Médicis, qui pareil est un lieu francophone. En fait, c'est un lieu qui avait été fondé par Louis XIV et qui propose des résidences d'artistes. Donc pareil, c'est un chouette endroit. Si jamais vous le voyez, n'hésitez pas à saluer le Pan, qui est le maître de ces lieux et qui est aussi un animal assez important pour le coup, sur Rome, qui est symbole de beaucoup de choses. Et encore 2 petits lieux à visiter qui, si vous avez envie d'être un petit peu au frais, vous avez la crypte des Capucins, donc qui est une chapelle. Donc là, vous êtes au niveau de Barberini. C'est la station de métro Barberini. Donc la crypte des Capucins, vous avez le musée, cette crypte. Et en fait, c'est une crypte qui est entièrement décorée en ossements. Et vous pourrez même voir des momies véritables. Et ça vous en apprend énormément sur le rapport des Capucins avec la mort. Donc ça, c'est très, très enrichissant. Vous avez parlé des audioguides en français. Et alors, vous avez... Là, c'est un petit peu plus laborieux, mais... Vous avez beaucoup de panneaux explicatifs, mais voilà, la plupart du temps, c'est en italien et en anglais. Et vous avez aussi la Fontaine de Trevi. Alors, la Fontaine de Trevi, il faut savoir que si vous voulez vraiment éviter le monde, il faut y aller avant 10h et après 22h. Donc, autant vous dire que c'est, à moins d'être des oiseaux de nuit, c'est très compliqué. Mais par contre, vous avez les aqueducs qui sont en dessous, c'est-à-dire qu'en fait, sous tout Rome, il y a des aqueducs qui courent et il y a aussi les vestiges des villes romaines parce que le sol s'est élevé depuis la Rome antique. Donc là, vous avez vraiment des bâtiments qui sont presque très très bien conservés qui peuvent vraiment vous donner une idée de comment les Romains antiques fonctionnaient pour faire passer de l'eau, comment leurs maisons ont été faites. Et ça, c'est un lieu qui est ouvert au public depuis 2005. Vous avez un petit lieu comme ça, c'est au niveau de la Fontaine de Trevi, Aqueduc Domus, vous cherchez. Et là, vous les trouverez à ce moment-là. Et voilà, pour Rome, ce petit best-of, que ça va, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses. Aussi, j'aurais pu vous parler des Galleria Borghese, qui sont magnifiques, extrêmement riches, pour le coup. J'aurais pu vous parler du Palazzo delle Esposizioni, parce que vous avez une petite exposition qui s'appelle Vita Dulci, qui parle un petit peu du rapport à la Rome antique. Donc ça, c'est jusque fin août. Vous pourrez, si jamais, vous y aller cet été, à Rome, faut y aller. Et puis un petit lieu aussi, c'est le Fort Predestino, qui était une ancienne prison qu'ils ont transformée en salle de concert. Et voilà, ce sera tout. Après, il y a encore énormément de choses à voir et à faire. Et la prochaine fois, moi, je reviendrai avec mes chroniques jeux vidéo. Hein. On continuera à voyager. Mais malgré tout, je vais quand même vous donner quelques petites actualités avant de vous laisser. Bien sûr, si vous suivez un petit peu, il y a des chances que vous ayez un petit peu aperçu de loin la sortie de Zelda Tears of the Kingdom, qui est sur Switch, qui a beaucoup fait parler de lui, qui est un jeu qui a été très très attendu. Pour ma part, je ne l'ai pas encore fait pour diverses raisons, mais effectivement, du peu que j'en ai vu, c'est... Voilà, on reste dans la digne lignée du premier qui était Breath of the Wild. Et le lundi 12 juin, vous aurez les Ubisoft Forward Live. Donc ça, ce sont une convention de Ubisoft. Alors Ubisoft, c'est ceux qui sont derrière les jeux, notamment Assassin's Creed. Et donc, c'est un live où le studio annoncera ses sorties de l'année. Et là, pour le coup, eh ben, je vous ferai un petit retour. Et voilà, notre émission touche à sa fin. Je suis toujours... toujours là, je suis revenue, très heureuse d'être revenue en votre compagnie et en compagnie de toute l'équipe que je remercie, même si au final ils ont dû tous partir. Donc je remercie bien sûr Pascal Sabatier, si elle m'entend, pour ses superbes recommandations. Vanessa Archambault qui est partie car le devoir l'appeler. Et bien sûr, on pense fort à Chloé Cardino pour le coup, qui est les pieds de, qui est en Italie, qui a un petit peu pris ma place. Et bien sûr, chez Liane, qui elle est en Bretagne, les pieds dans l'eau, qui profite de la fraîcheur et qui a bien raison de le faire. Merci à tous d'avoir écouté. C'était une émission qui a été créée par Jacques Lavergne, animée par toute l'équipe. Nous sommes tous derrière cette émission. C'était ma préférence. Vous pourrez la retrouver sur le site Esprit Occitanie ainsi que sur l'application. N'hésitez pas à l'écouter et à la réécouter. On vous souhaite une très, très, très belle journée. Et je vous dis arrivederci.